Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Bonjour. Comment réussit-on à transmettre à des enfants une histoire terrible impliquant des enfants de leur âge sans les traumatiser? C'est à cette question que la journaliste Audrey Gordon, qui est notre invitée aujourd'hui, a voulu répondre en réalisant pour la télévision Kinderler, un film sur une expérience pédagogique originale qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle a filmé pendant plusieurs mois, l'an passé, une classe de CM1 de Blanzy, une petite ville de Bourgogne, qui s'est plongée dans l'histoire des enfants d'Izieux, 44 enfants raflés et déportés en 44. Bonjour Audrey Gordon.
Bonjour.
Que raconte votre film Kinderler?
Donc c'est, comme vous l'avez dit, une classe de CM1 dans ce village de Bourgogne. L'année dernière, ils ont monté avec une metteur en scène une pièce de théâtre donc sur l'histoire des enfants d'Izieux. Et toutes les semaines, c'était prévu sur le temps scolaire, toutes les semaines, ils répétaient avec la metteur en scène et avec l'aide de l'enseignant qui, en parallèle, leur donnait des cours d'histoire sur le sujet parce que normalement, c'est au programme de CM2. Et donc, ils ont répété toute l'année et ils ont joué leur spectacle. Ils ont fait une tournée en Bourgogne et à la fin de la tournée, ils sont allés jusqu'à Izieux pour jouer leur pièce au pied de la maison d'Izieux et en même temps découvrir la maison.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement l'histoire de la colonie des enfants d'Izieux?
Donc, la maison d'Izieux, c'était une maison d'enfants juifs réfugiés qui avait été créée en 1943 par Miron et Sabine Zlatin. L'idée, c'était de tenter de sauver les enfants et d'essayer par la suite de les faire passer en Suisse. Et ils avaient choisi cet endroit-là parce que c'était dans la zone, à l'époque où ça a été créé, en 1943, dans la zone italienne, au printemps 1943. Et les Italiens étaient beaucoup moins durs avec les Juifs que ne l'étaient les Allemands. Et malheureusement, donc la colonie a ouvert au printemps 1943, et malheureusement, en septembre 1943, c'était plus les Italiens, mais c'était les Allemands qui étaient là. Et donc, la situation a empiré. Et en avril 1944, Klaus Barbie a ordonné la rafle de la maison d'Izieux. Et donc, tous les encadrants et tous les enfants qui étaient là à ce moment-là ont été déportés à Auschwitz.
Il ne survivra que Léa Feldblum et Sabine Zlatin, c'est ça?
Voilà, alors était... Sabine Zlatin, ce jour-là, sentant la menace, était partie à Montpellier chercher d'autres maisons pour les enfants. Et en fait, elle a été avertie quand elle était là-bas de la rafle. Donc tous les autres étaient partis. Et Léa Feldblum était une encadrante de la colonie. Elle avait une fausse identité, donc elle aurait pu être sauvée. Et au dernier moment, elle a donné sa vraie identité parce qu'elle voulait rester avec les enfants. Et elle les a suivis jusqu'à Auschwitz. Et c'est la seule, finalement, qui a survécu. Elle a pu témoigner au procès Barbie en 87.
Puisqu'on évoque l'histoire, comment les enfants donc, de cette classe de Blanzy ont été préparés par leur instituteur Christian Soufflet à se confronter à cette histoire douloureuse?
Alors oui, donc avant de commencer les répétitions, c'est ça qui est important, de la pièce de théâtre, il a d'abord fait des cours d'histoire sur le sujet et il a commencé par un cours assez général sur la Deuxième Guerre mondiale comme on fait généralement en CM2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les moyens modernes, il a pu utiliser, on le voit dans le film, il utilise Google Maps pour montrer aux enfants où se trouve Izieux, où ils se situent, par quelle route ils vont passer, par quelle route sont montés les nazis pour arrêter les enfants d'Izieux. Donc c'est très concret. Il leur montre des photos de la maison, mais il leur montre jamais des photos des enfants d'Izieux pour pas qu'ils les voient toute l'année et que ça les perturbe. Et donc, ils attendent d'arriver à la maison pour découvrir ces photos-là.
Ah, d'accord.
Donc, c'est vraiment une préparation. C'est vraiment le cours
historique,
d'histoire.
Le cours, voilà, d'histoire.
Et en même temps, il fait en sorte que comme les enfants jouent en parallèle ensuite une pièce de théâtre là-dessus, il essaye de leur faire quand même un petit peu s'approprier l'histoire. Et il leur dit... bientôt, vous allez marcher sur le parquet où ont marché les enfants d'Izieux pour que tout d'un coup, ils arrivent un petit peu à s'approprier l'histoire, mais en tant que voilà, pour la pièce de théâtre.
Vous filmez une scène en classe formidable où les élèves, donc, j'imagine à la demande de l'instituteur, racontent comment leurs arrière-grands-parents, dont certains sont encore vivants d'ailleurs, ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un qui dit, je crois que c'est Samuel, Mon arrière-grand-père a été menacé par des Allemands à Châlons. Parce que les Allemands ont cru qu'il était juif, il a eu super peur. Bon, ils parlent avec leur langage d'enfant. Il y en a un autre qui évoque ses deux grands-pères, dont l'un était juif et mort à Auschwitz, et l'autre résistant a rejoint De Gaulle à Londres. Et est-ce que c'était une façon pour leur instituteur, à votre avis, de, bah justement, comme vous dites, de les aider à s'approprier cette histoire, de montrer que cette histoire, l'histoire avec un grand H, c'est aussi un peu leur histoire à eux?
En fait, ce que m'a dit l'instituteur dès le début, c'est que cette pièce de théâtre a provoqué dans toutes les familles des enfants de la classe des grandes discussions autour des histoires de la guerre, des histoires de famille. Et tout le monde a commencé à en parler, chacun en a parlé dans sa famille. Et donc, ils étaient très fiers, enfin, ça se voyait quand on filmait les cours d'histoire, ils étaient toujours très fiers de raconter leurs histoires de famille. C'est souvent un peu flou et ils ne se souviennent plus très bien, mais...
Donc, oui, l'instituteur les amène à préciser par ses questions.
Voilà, et finalement, c'est une façon de s'approprier. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, je ne sais pas si on a l'habitude de ça, c'est la génération d'après, et c'est seulement leurs arrière-grands-parents qui ont vécu cette période de l'histoire, et j'ai l'impression qu'on ne connaît pas encore très bien cette nouvelle génération, et c'était intéressant. Ça paraît, quand on les entend parler de leurs arrière-grands-parents, ça paraît tellement lointain. Tout d'un coup, on s'inquiète et on se demande justement comment est-ce qu'ils vont réussir à s'approprier encore cette histoire.
Oui, tout à fait. Et on a l'impression, au départ, on se dit, bon, c'est une classe de Bourgogne. Ils sont très loin de cette histoire, finalement. Ils ont leurs préoccupations. J'imagine que vous les avez vus aussi jouer dans la cour de récréation. Et en même temps, par ces témoignages dont ils se font les relais, ils semblent justement, finalement, assez proches de cette histoire. Je trouve que c'est une excellente idée qu'il a eue là, le maître de leur... de les inciter finalement à interroger aussi autour d'eux leur famille. Comment les familles se sont impliquées dans ce projet?
Alors,
comment ont-elles réagi même à ce projet? Il y a peut-être eu aussi des oppositions.
Et en fait, ils ont préparé très en amont avec les familles le terrain. L'année d'avant, quand ils ont décidé de monter ce projet, ils ont convoqué tous les parents des futurs CM1, Yvette, la metteur en scène, et Christian, l'instituteur. Et l'instituteur leur a expliqué le projet, et il y avait beaucoup de... C'est ce qu'il explique dans le film, il y avait beaucoup de craintes, parce que, c'est, comme il dit, c'est pas anodin de jouer sur scène les enfants d'Isieux. Et en plus, ce qu'il dit aussi, c'est que certains parents avaient peur qu'ils n'arrivent pas à suivre le programme scolaire en même temps, parce que c'est assez lourd de répéter toutes les semaines. Et le fait d'en parler à l'avance, ils ont réussi à évacuer plus ou moins bien les peurs, et... l'instituteur dit qu'il n'a jamais vu une telle mobilisation autour d'un projet. Tout le monde s'est complètement pris au jeu et tous les parents ont participé, et c'est une des grandes forces de ce projet, je pense, parce que c'est assez rare, une telle mobilisation. Les parents venaient accompagner tout le temps les élèves aux répétitions régulièrement, ils participaient aux costumes, ils ont accompagné à Isieux pour faire la cuisine. Enfin, il y avait vraiment une grande mobilisation, donc je pense que c'était un atout important.
Ils ont compris participer au costume, c'est ça? C'est ce que vous racontiez? Oui. Enfin, à l'aspect, à la préparation matérielle, à toute l'organisation. Alors, racontez-nous comment ces enfants, après avoir attendu ce moment pendant 9 mois, puisque c'est ça, c'est toute l'année scolaire qu'ils se sont préparés, découvrent la maison des enfants d'Isieux. Donc, je rappelle que c'est depuis... 1914, c'est un musée mémorial. 1994, excusez-moi. Un musée mémorial. Voilà, décrivez-nous un peu leur état d'esprit.
Déjà, je trouve que ce qui surprend un peu, mais en même temps, c'est des enfants, c'est juste avant d'arriver, leur excitation. Et quand c'est sûr qu'on est toujours surpris de voir une excitation au moment de l'arrivée à Isieux. Ils sont vraiment contents, en fait. Ils se sont... Voilà, c'est leur pièce de théâtre. Et c'est pas, ils se sont approprié l'histoire, mais comme l'histoire d'une pièce de théâtre qu'on va jouer, et ils ont tout d'un coup envie de découvrir à quoi ressemble vraiment l'endroit.
Dans le bus, ils chantent. Voilà, bus, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine comme les enfants d'Izieux l'ont
voilà,
chanté.
Parce qu'on leur a raconté que les enfants d'Izieux chantaient ça aussi.
Au moment et où ils ont été emmenés d'ailleurs. Voilà.
Et ils sont, enfin ils ont tellement vu de photos, ils en ont tellement parlé. Tout d'un coup, c'est avec leur imagination d'enfant, c'est quelque chose d'énorme pour eux. Et tout de suite, en fait, ils sont allés vers les photos parce qu'ils n'en avaient quasiment jamais vu. Et chacun connaissait les noms sans vraiment s'identifier. Mais chacun savait à peu près qui jouait, même s'il joue souvent plusieurs rôles dans la pièce parce qu'il n'y a pas le même nombre d'enfants dans la classe et dans la colonie d'Izieux. Et ils sont allés vers les photos et ils disaient « là, c'est moi, là, c'est moi ». Ils regardaient l'âge des enfants, ils lisaient un peu l'histoire. Et finalement, ce qui les fascinait beaucoup plus que tout le reste, c'était de voir la tête des enfants, comment ils étaient habillés. Et puis, comme ils disent aussi certains dans la pièce, ils étaient fascinés de... C'est sûrement parce que l'instituteur leur avait présenté les choses comme ça, mais ils étaient fascinés de toucher les murs, de marcher sur le parquet, le même parquet que les enfants d'Izieux.
La rencontre aussi avec... Alexandre Allonbrenner, dont les sœurs ont été raflées et qui a été témoin au procès Barbie, est particulièrement émouvante. Vous la filmez, pouvez nous la raconter aussi.
Oui, en fait, il est arrivé le matin et il a passé une journée entière avec les enfants avant de venir voir le spectacle. Et il a commencé par un témoignage. Comme c'est souvent le cas, devant la maison, où il raconte son histoire aux enfants, et ça, c'est quelque chose de très courant. Et je pense que les enfants n'ont pas vraiment... Enfin, ils écoutaient sûrement, mais je pense qu'ils s'ennuient un peu, ils ont 9-10 ans, et je ne sais pas s'ils sont sensibles à ce genre de témoignage. Et il ne se passait pas grand-chose à ce moment-là. Et ensuite, l'intérêt de cette journée, c'est qu'ils ont eu beaucoup de temps, et ensuite, ils ont passé pas mal de temps avec Alexandre, ils ont dîné avec lui et ils étaient tous réunis autour de lui. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose parce que c'était devenu quelque chose de complètement informel. C'était plus du tout une rencontre officielle organisée par la Maison d'Izieux. Et il y a eu un attroupement tout d'un coup. Et ils ont commencé à lui poser plein de questions. Alors, on ne voit pas tout dans le film, mais ils étaient à table et ils n'arrêtaient pas de lui demander... parce qu'il chante beaucoup de chants en yiddish dans la pièce de théâtre. Et ça, ça veut dire quoi ? Et ça veut dire quoi ? Il lui demandait des traductions en yiddish. Donc Alexandre répondait à ce qu'il pouvait, parce qu'il connaît beaucoup de chansons populaires. Et c'était très émouvant. Et les enfants ont chanté pendant le repas un chant yiddish qu'ils chantent sur scène. Et donc Alexandre était très ému. Et tout d'un coup, ça a bouleversé les enfants de voir qu'il était aussi touché par leur chant. Et puis, ils étaient très prévoyants avec lui. Ils lui demandaient ce qu'il voulait boire. Ils lui expliquaient comment manger le taboulé. Enfin, c'était vraiment émouvant. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils se sont retrouvés tout seuls avec lui et pas au moment officiel du témoignage, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce qu'on voit dans le film. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte de déclic chez certains enfants. Et... ceux pour qui c'était
comme
resté...
Sandra.
Voilà, Sandra, c'est ce que raconte le professeur. Pour elle, c'était resté quelque chose de très scolaire. Et elle n'avait peut-être pas bien cerné l'histoire. Et ça l'ennuyait un petit peu. Et le fait de... Voilà, ce jour-là, avec cette rencontre avec Alexandre, tout d'un coup, c'est comme si tout s'était connecté en même temps. Et elle est venue voir, elle m'a dit... Mais t'as vu comme il tremblait quand on a chanté et tout d'un coup tout s'est connecté. Elle a réalisé que ça avait vraiment existé. Et c'est ce que dit l'instituteur dans le film. Il dit on a réussi à leur faire toucher du doigt l'histoire. Et je pense que même lui était surpris du déclic qui est arrivé chez certains enfants.
En plus, ils l'ont trouvé cool, on veut dire, parce qu'il avait une casquette Avenger, oui. Des baskets. Ils avaient cette image peut-être d'un vieil homme. Et l'identification passe par là aussi. Ils ont pu imaginer peut-être l'enfant qu'il a été en le voyant habillé comme ça. La petite Lisa qui dit « Oh, il est très relooké, on ne s'attendait pas à ça. »
Oui, oui, ça
sent que le courant passe.
Hein. Oui, ça, je pense qu'ils ont été vraiment surpris dans le bon sens. Et ils ont passé la journée avec lui et le lendemain, avant de rentrer chez eux, ils étaient encore avant de monter dans le bus, tous ensemble, autour de lui. Et non, c'était vraiment un moment impressionnant.
Et lui-même a eu cette phrase très belle. après la représentation, il dit les enfants, ils n'ont pas joué, ils l'ont vécu pour moi. Et on sent que lui-même a été très touché, en fait, de voir leur investissement.
Oui, il est resté pendant la pièce, il était tout seul à l'écart, il n'était pas dans le public, il est resté sur un banc tout seul et il était très, très ému. Et c'est pas le seul, mais lui particulièrement a dit que en voyant ses enfants jouer avec ses chants et cette pièce au pied de la maison d'Izieux, il était pas là quand ses sœurs étaient à Izieux, mais il a dit qu'il avait eu l'impression de revoir les enfants d'Izieux à nouveau.
En 2011, Mémoire Vive avait reçu l'historien Pierre-Jérôme Biscara, qui est le responsable pédagogique de la maison d'Izieux et qui est également le conseiller historique de votre documentaire. Et voilà ce qu'il disait. Des élèves qui ne sont pas préparés, ça ne marche pas. Les lieux ne se découvrent pas, il faut y aller, comme disait Lanzmann, engorgé de savoir, pas trop non plus, il ne faut pas écraser l'élève de trop de savoir, mais il faut qu'il y ait un projet pédagogique. Et là, ça se passe toujours très bien. Il disait encore qu'il était opposé à une pédagogie du choc et que, à Izieux, en quelque sorte, l'assassinat des enfants est en creux, c'est son expression, et que donc on rentre dans cette histoire par la vie et on ressort d'Izieux debout, finissait-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous pensez que cette expérience de transmission par le théâtre, là on pourrait peut-être aborder ce sujet, a réussi ?
Ben justement, moi je ne suis pas une spécialiste de la pédagogie, mais j'ai eu l'impression, quand j'ai découvert ce travail que faisait l'instituteur, la metteur en scène avec les enfants, j'ai eu vraiment la sensation que c'était presque un modèle de ce qu'il faudrait faire en termes de transmission de mémoire. Et je pense que ce qui a marché, c'est pas seulement de donner des cours d'histoire, c'est pas seulement de jouer une pièce de théâtre, c'est pas seulement de rencontrer un ancien témoin, mais ce qui a marché, c'est de répéter cette même histoire par tous ces biais-là. Ils ont suivi le cours d'histoire, ils ont fait une pièce de théâtre en même temps, ils sont allés sur les lieux, et en plus, ils ont rencontré des témoins. Et je pense que chaque chose, indépendamment, aurait peut-être moins bien fonctionné, parce que j'y crois moins. Et là, la conjonction de tout ça a fait que, comme dit l'instituteur, ils ont réussi à toucher du doigt l'histoire. Et c'est, à mon avis, ça la force du projet.
Vous avez, dans la note d'intention, vous racontez que quand vous êtes entré dans la classe, la première fois que vous avez rencontré ces enfants, ils vous ont dit, ils vous ont accueilli un peu comme une star de la télé, et eux-mêmes comme des acteurs connus, vous voulez un autographe, etc. Et que vous vous êtes dit, vraiment, ces gamins n'étaient pas traumatisés, malgré la pièce de théâtre sur la colonie d'Izieux. Et finalement, c'était la question que vous posiez, que vous posez dans le dossier de presse que j'ai cité au début. Comment réussit-on à transmettre à des enfants une histoire terrible qui implique des enfants de leur âge sans les traumatiser ? Donc pour vous, le pari est réussi ?
Oui, je pense qu'il est réussi. Et c'est vrai que quand on lit le sujet de la pièce de théâtre sans vraiment connaître, on peut s'inquiéter. Moi, je m'inquiétais un peu avant d'arriver. Et c'est pour ça que je raconte cette anecdote. C'est que le jour où je suis arrivée en plein dans les répétitions, j'ai tout de suite senti qu'il n'y avait pas de traumatisme. Et donc, ça a apaisé mes craintes tout de suite. Et je me suis rendu compte, j'avais toujours peur justement de l'idée de s'identifier pour des enfants ou qu'ils se sentent responsables de ce qui s'était passé. Et là, c'est fait de telle manière par à la fois par l'enseignant et par la metteur en scène.
Oui, il faut parler aussi d'elle, voilà. Yvette Sauvage Le Long.
Voilà, ouais. qui a fait la mise en scène du spectacle. Et en fait, elle a écrit la pièce d'une telle manière et ils ont travaillé d'une telle manière avec les enfants. C'est une identification, mais comme on s'identifie comme un acteur pourrait s'identifier à son personnage. Et donc, même s'ils découvrent les photos et qui disent « là c'est moi », c'est comme un rôle et qui découvrent le personnage et le costume qu'ils vont porter. Et donc, ce qui fait toute la différence, c'est justement cette distance qui est créée par le théâtre. Et c'est ce que dit toujours l'instituteur, et il a toujours insisté là-dessus. Il joue les enfants d'Izieux, ce ne sont pas les enfants d'Izieux, ils jouent. Et quand ils ont fini de jouer, et ben, c'est des enfants et ils vont jouer au foot et aux billes et ils pensent plus à ça. Et donc c'est ça qui est important. Et ils ont toujours à la fois par la façon dont Yvette a écrit la pièce et à la fois par le voilà par leur comportement avec les enfants, ils ont toujours veillé à ce que cette distance qui est, je pense, la distance raisonnable, soit maintenue avec les enfants.
C'est aussi l'approche d'Yvette Sauvage-Lelon qui dit dès qu'il s'agit d'aborder des choses graves, j'ai pris le parti de leur faire dire aux enfants de façon poétique. Rien n'est dit par les enfants de façon réaliste par rapport à la déportation, au fait qu'ils vont mourir, ces enfants. On ne peut pas faire endosser à des enfants un drame pareil, dit-elle.
Voilà, donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a des acteurs adultes qui jouent dans la pièce, puisqu'ils jouent l'encadrement de la colonie, qui était important. Et tout ce qui est difficile, tout ce qui raconte la déportation, ce que vont vivre les enfants après, ce n'est pas du tout les enfants qui le disent, c'est uniquement les adultes qui en parlent, qui jouent l'encadrement de la colonie et qui, en même temps, sur scène, servent de... Voilà, qui jouent les témoins de cette histoire. Et donc, c'est eux qui disent les choses graves. Et les enfants, bien sûr que l'histoire est dramatique, mais elle a écrit et construit la pièce de façon, je trouve, très équilibrée, puisque ça alterne entre les scènes, entre guillemets, heureuses de la colonie, où, puisqu'il y a eu une période où les enfants étaient... même si beaucoup étaient déjà orphelins, il y avait une certaine insouciance pour certains, une certaine exubérance. Et ils arrivaient à rester des enfants, à jouer.
Surtout l'été, voilà. Parce que le cadre est très beau.
Donc ils jouaient, ils faisaient aussi des pièces de théâtre. Et donc dans sa pièce, Yvette a fait une partie qu'elle appelle la partie heureuse de la colonie. Il y a des chants, il y a des chorégraphies. Elle leur a appris à jouer à saute-mouton. C'était pas facile, d'ailleurs. Elle leur a appris à danser sur des chants yiddish, à chanter. Et tout ça est très équilibré avec la partie triste où on évoque la déportation. Et je pense que c'était important pour des enfants. Voilà, ça aidait. Et d'ailleurs, il y a un petit garçon, Raphaël, c'est pas dans le film, mais qui m'avait dit en interview que... heureusement, il y avait une partie joyeuse, il disait, parce que si ça serait toujours triste, ça serait un peu ennuyeux, il m'avait dit. Voilà, je pense que c'était important pour les enfants.
Est-ce que vous pensez que ces enfants, qui étaient a priori voilà, un peu éloignés de cette histoire, sont capables aujourd'hui d'être des relais, de la transmettre à leur tour ?
Je ne sais pas si on peut le dire pour tous les enfants, c'est difficile de savoir jusqu'à quel point tous ont compris vraiment l'histoire. Tous ont été sensibilisés et ont commencé à l'intégrer. Dans le film, il y a la petite Lisa qui est très impressionnante et avec qui j'ai eu vraiment une discussion sur le devoir de mémoire. Mais c'est pas, enfin, elle est très très mature et elle disait s'il y en a au moins un de nous qui s'en souvient, on aura gagné. C'était d'une grande maturité. Et donc, je pense qu'il y en a qui sont déjà sensibles à ça. Mais Yvette avait déjà monté cette pièce il y a 15 ans pour rendre hommage à Sabine Zlatin quand elle était morte en 96. Et elle l'avait faite avec une autre classe de CM1. Ils étaient aussi allés la jouer à Izieux. Et ce qu'elle me dit, c'est que tous ces enfants s'en souviennent encore et ont été très marqués par cette pièce de théâtre. Et je pense que ça a vraiment changé quelque chose. Et ils l'appellent encore aujourd'hui. Ils sont grands maintenant pour lui dire combien ça les a marqués. Donc je pense que ça marche, ça reste. Marche.
J'ai une dernière question. Vous êtes jeune journaliste, vous avez 25 ans. Pourquoi il était important pour vous de réaliser ce film ?
Peut-être parce que j'ai pas eu assez de temps avec mes propres grands-parents pour parler de transmission et pour qu'ils me racontent toute leur histoire directement. Et donc, je m'interroge beaucoup sur la question de la transmission aux enfants. Et voilà. Et puis, en fait, c'est surtout tout est né de cette rencontre avec Yvette et avec ses enfants. Et j'ai eu vraiment l'impression que c'était un modèle de ce qu'on pourrait faire.
Un modèle pour transmettre cette histoire. Merci Audrey Gordon.
Merci.
Je rappelle que votre film documentaire sera diffusé le 9 février à 15h20 sur France 3 Bourgogne. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver. www.radio-rcj.info www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.